Pluriel gay.
Et bien voilà, je me suis laissé avoir par le temps, je suis désolé de ce petit blanc, mais je suis là pour une émission, bah, vous avez compris, je suis seul, hein, c'est pour ça que ça cafouille un petit peu, je n'ai pas mes techniciens habituels, je les salue d'ailleurs, peut-être m'entendent-ils ce soir. Et bien voilà, je suis ravi de retrouver l'auditoire, nombreux je l'espère, de l'émission Pluriel Gay. Alors je suis seul, pourquoi ? Parce que je n'ai pas d'invité ce soir, et je vais donc diffuser des sons que vous connaissez déjà un petit peu, puisqu'il s'agit des chroniques de Thomas Dupuis, les années guépiers. Alors on avait déjà passé plusieurs années, plusieurs chroniques correspondant aux premières années du mensuel, puis de l'hebdomadaire guépier. Et on en était arrêté donc à l'année 1987. C'est donc celle dont nous allons entendre ce soir. Par contre, comme il y a un certain temps que nous n'avons pas eu le plaisir d'entendre ces chroniques, une petite piqûre de rappel s'imposait, je pense. Donc, il y a un petit résumé au début, hein, style les résumés d'épisodes autrefois, hein, dans les séries, on résumait toujours les épisodes précédents. Voilà, c'est un peu ce qui va se passer là, maintenant, dans les premières minutes de l'émission. Et je tenais au passage à remercier mon petit Gilles, qui est mon collaborateur de l'ombre, qui a effectué le montage donc des sons que nous allons entendre. Donc, avant les années 1987 puis 1988, petite piqûre de rappel.
Le journal Guépier a commencé à apparaître officiellement, le numéro 1 date d'avril 79, il y avait eu un numéro 0 en février 79. Il a tout de suite en fait été diffusé en kiosque, ce qui était une nouveauté. Il a été distribué par les NMPP, qui est devenu Presstalis maintenant, et donc ça a été le premier magazine en France qui a eu cette couverture-là nationale. Il y a eu une tentative de l'interdire de Charles Pasqua en 86 ou 7, je ne sais plus maintenant, où en fait il a utilisé un article de loi pour essayer de le faire interdire. La mesure a été tout de suite avortée immédiatement parce que il y a eu un soulèvement des people, des journalistes, etc. Ça a fait le buzz pendant un jour ou deux et tout de suite Pasqua a dû revenir en arrière. Mais du coup, Guépier a pu courir. Ça s'est terminé en octobre 92. Ils ont mis fin volontairement à l'aventure de Guépier. Après, il y a eu pendant deux ans à peu près, c'est Didier Lestrade qui a continué avec les éditions du Triangle Rose qui détenait Guépier à sortir ce qui s'appelait la lettre de Guépier, qui était en fait une espèce de fascicule de 8 pages chaque mois, qui a duré deux ans à peu près. Et ensuite, la marque Guépier a continué à éditer les sites Minitel, parce que c'est là que se finançait la société. Le journal en lui-même n'a jamais rapporté d'argent, et a continué à éditer les guides gays chaque année, voilà, jusqu'à tomber finalement. Et maintenant, la marque en soi a été rachetée par le site Gayvox, qui est un site donc internet, et c'est eux qui aujourd'hui détiennent les droits sur Guépier et gardent la marque et les droits.
D'accord, donc le premier Guépier, le tout premier numéro est paru officiellement, je veux dire, c'était sous Giscard.
C'était sous Giscard et ça a été monté de briques et de brocs quand même. Donc à l'origine, il y a eu avant tout Jean Le Bitou, mais dès le premier numéro, il y a un article de Guy Hukengame, il y a Sartre aussi qui a écrit tout de suite, il y a Michel Foucault qui, c'est lui qui a trouvé le titre, enfin en tout cas c'est ce qu'on dit, et qui a régulièrement contribué. Donc dès le départ quand même, il a été soutenu et c'est vrai que jusqu'à 81-82, le journal était quand même, recevait pas mal de grands noms de la philosophie ou autre. C'était un journal vraiment très sérieux. Après, il y a eu un changement de ligne éditoriale, mais qui correspondait aussi à l'attente du public à partir de 82-83, ce qui a fait que Jean Le Bitou est sorti du Guépier. Enfin, voilà, il y a eu, comme souvent dans les entreprises gays, il y a eu pas des putschs, mais des licenciations internes. Il y a eu une sortie avec fracas. Et Gérard Vapro, qui est devenu le gérant des éditions du Triangle Rose, lui est resté jusqu'au bout.
Dès le départ, le Guépier était un journal militant, en fait, au départ, très militant.
Alors, au départ, c'était très militant et c'était très politique. Il faut savoir que, donc, au départ, c'était fait, donc, ce que je disais, de briques et de brocs, c'était fait dans l'appartement de Jean Le Bitou. Et les premiers numéros ont été imprimés par les imprimeries de la LCR. les communistes révolutionnaires, qui eux ont apporté le soutien opérationnel et logistique. Et on sent effectivement, voilà, c'était beaucoup plus politique. Le militantisme était très politique à l'époque. Et c'est vrai qu'on voit le changement après Mitterrand qui arrive. Du coup, les gays obtiennent des droits, commencent à obtenir des droits et une visibilité, notamment grâce à l'action de Defferre. Et du coup, on assiste après ça à une baisse du militantisme politique, et d'où le besoin aussi pour le journal d'adopter une autre voie un peu plus... Alors, il y a toujours eu un fond quand même très, très sérieux. Quand on compare à Tétu aujourd'hui, le fond est plus du tout le même. Mais... ça, le guépier a commencé à s'ouvrir à des unes, enfin à des couvertures avec des mecs un peu dénudés. Il y a eu le cahier central avec les mecs à poil au milieu. Et puis ça a été vraiment un mélange du coup d'articles très grand public, tout en ayant des articles sérieux et puis beaucoup de témoignages de people, de politique, etc. A priori, le guépier était quand même très reconnu aussi dans la presse. Il était suivi. Parce que voilà, c'était un journal de qualité. C'était pas qu'un journal, c'était pas du tout un journal érotico-pornographique ou autre tel que ça existait déjà à l'époque. C'était un journal avec du fond, mais à partir de 82, on va dire, quand le militantisme politique retombe parce que on a l'impression d'avoir acquis les droits, donc il n'y a plus besoin de militer politiquement, du coup, il y a un changement de ligne éditoriale. Changement qui avait été demandé par le premier rédacteur en chef, d'ailleurs, Jacques Fougeray, qui n'avait pas pu obtenir cette ligne-là parce que Jean Lebitou voulait toujours en faire un journal politique. Donc du coup, Jacques Fougeray avait été sorti de Guépier. Et au final, après, c'est l'équipe suivante avec Franck Arnal qui a mis en place une ligne éditoriale un peu plus variée, on va dire, un peu plus ouverte.
Au départ, le militantisme, fin des années 70, était surtout axé sur l'abolition des deux alinéas, fameux alinéas, du code pénal, de l'article 331, je crois.
Si je de mémoire, c'est l'article 330 alinéa 2 et 331 alinéa 3, je crois, je sais jamais. Alors, ce qu'il faut savoir, l'histoire est... Il y a un livre d'ailleurs que je conseille, tu en as peut-être parlé. C'est les alinéas du placard d'Antoine Idier qui relate ça très bien. Il faut savoir que les deux articles qui restaient dans le code pénal qui traitaient de l'homosexualité, il y en avait les deux au départ dès 77 avaient été mis en débat grâce à l'action non pas des militants politiques, des militants associatifs, mais d'un politique, d'Henri Caillavé, qui a pris connaissance de ces articles-là du Code pénal, qui réprimait, pour faire simple, qui réprimait plus fortement l'outrage à la pudeur et les relations entre un mineur et un adulte quand il s'agissait de relations homosexuelles. Donc Henri Caillavé, tout seul comme un grand, a porté le débat au Sénat, s'il était sénateur, avec le gouvernement, avec l'appui du gouvernement de Raymond Barre, au départ, et les deux articles, au départ, devaient sauter. Ce qui s'est passé, c'est que quand la loi après est passée à l'Assemblée nationale, elle avait commencé au Sénat quand elle est passée à l'Assemblée nationale, là, il y a eu un député RPR à l'époque, Jean Foyer, qui s'est emparé du débat, qui l'a porté sur la place publique, et qui a fait en sorte qu'en fait, sur les deux alinéas, il n'en est resté plus qu'un. Donc le 331 alinéa 3 qui est devenu alinéa 2 je crois ou je sais plus en fait cet alinéa là ce qu'on appelle pénalisation de l'homosexualité en fait c'était la pénalisation des relations sexuelles entre un adulte et un mineur de 15 à 18 ans alors que les relations étaient permises entre un adulte et un mineur de 15 à 18 ans dans le cas de relations hétérosexuel. Et c'est cet article-là sur lequel, une fois que le... En fait, ce qui s'est passé, c'est que le débat, il a été porté par Henri Caillavé au niveau politique. Et quand ça a commencé à foirer à l'Assemblée nationale. Là, du coup, la presse s'en est emparée, le Guépier en l'occurrence, et le monde militant, avec le QR qui venait de se constituer. Le QR s'est constitué en juillet-août 79, donc c'était la grosse fédération d'associations de l'époque.
Comité d'urgence anti-répression homosexuelle.
Voilà. Donc, ils se sont emparés de l'affaire, et du coup, c'est devenu une revendication, alors que ça ne l'était pas à l'origine. Et c'est cette revendication là qui a été porté par Mitterrand. Et c'est vrai que Mitterrand, quand il est arrivé, du coup, alors c'était pas dans les 110 propositions, mais pour autant il s'y était engagé, et du coup ça a été un peu l'acte fondateur, enfin l'acte primordial, je dirais, des revendications homo. Et quand Mitterrand est arrivé, donc ça a mis 2 ans, l'article a été aboli en août 82, ça a mis 1 an avant de se faire, mais dès qu'il est arrivé, place Vendôme, Badinter a donné des consignes depuis la chancellerie, donc pour qu'il n'y ait plus de condamnation dans le cas de cet alinéa-là, en prévision de la révision du code pénal. Et pour moi, l'action, elle a été beaucoup plus la libération qu'il y a eu en 81. Alors, je ne l'ai pas vécu, mais ce que je vois, ce que je ressens au travers les lectures, l'action, elle a été beaucoup plus depuis le ministère de l'Intérieur, avec l'action de Gaston Defferre, qui dès son arrivée place Beauvau a envoyé des consignes à tous les commissariats pour arrêter la traque au PD, pour qu'il n'y ait plus de discrimination.
Les fichiers notamment.
Voilà, qui a supprimé les fichiers. Voilà, il y a eu aussi au niveau du ministère de la Santé la France a arrêté de suivre la classification de l'OMS qui classait l'homosexualité dans les maladies mentales. Il y a eu toute une action. Alors, on a focalisé sur ce qui s'appelle abusivement la dépénalisation de l'homosexualité, mais il y a eu tout un mouvement qui a été libérateur en fait pour les PD en France. Et du coup, une fois qu'on a acquis ce droit-là, le mouvement politique associatif s'est essoufflé.
Alors, ce qui est incroyable quand même par rapport au Guépier, justement, c'est sa diffusion nationale. C'est le fait qu'on le trouvait dans des kiosques dans les grandes villes, mais on pouvait aussi le trouver parfois sur des petits buralistes à la campagne. Et ça, c'est un truc qui m'avait profondément marqué, je dirais, parce qu'on pouvait. C'est vraiment une presse qui a eu sa visibilité et une grande notoriété très rapidement, tout en étant une presse associée complètement aux gays, aux homos, etc. Et elle a eu une légitimité immédiate, pratiquement une grande notoriété. Tout le monde connaissait le Guépier, et ça a permis, enfin c'est comme un ghetto qui s'ouvrait, quoi, hein. On n'était plus seulement dans les boîtes et dans les mets, on était comme ça, on avait un journal qui était grand public.
Et moi, mon premier contact, pas physique, mais visuel avec Guépier, effectivement, c'était à côté de chez mes parents qui sont au sud de Toulouse et qui sont un peu en dehors d'une ville. Et à côté, il y avait une épicerie qui était ouverte quasiment 24 heures sur 24. C'était un couple d'un certain âge qui tenait ça. Et c'était vraiment, voilà, un truc de dépannage. Et il y avait 3 ou 4 revues. Il y avait Paris Match, il y avait le journal local, il y avait, voilà, le Télé 7 jours, voilà, en accès libre. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais osé demander, parce qu'à l'époque, j'étais ado, et voilà, mais ça m'a toujours fasciné. Elle vendait des clopes aussi. Et derrière son comptoir, juste au-dessus des clopes, il y avait toujours un guépier. Alors qu'il n'y avait pas du tout de truc. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ça. Et il y avait un guépier pendu. Je me souviens, il y avait une corde avec une pince à linge. Et elle mettait ses journaux comme ça. Et j'ai toujours été fasciné. Il y a toujours eu un guépier là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et voilà. Et pourtant, on était au fond de l'Ariège. Voilà.
D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est le fait d'acheter ce journal, c'était pas anodin. Il fallait, pour la personne qui l'achète, avoir presque un certain courage. C'était presque un acte de militantisme, parce que acheter le Guépier, qui n'était pas, on répète, hein, c'était un journal très sérieux. Pourtant, le Guépier, du fait de sa connotation, etc., connotation réelle, réaliste, hein, c'était fait par des gays, hein, c'était un journal militant, etc. Il fallait, c'était comme un outing qu'on faisait auprès du buraliste. Donc, il fallait un certain courage finalement, hein, pour acheter cette presse.
Guépier était aussi souvent distribué dans les GLH de l'époque. Les groupes de libération homosexuelle qui avaient essaimé partout en France. Chaque grande ville avait son GLH et en général la presse gay et lesbienne, parce que un peu après Gay Pied, il y a eu Masque aussi qui a commencé à sortir, et Lesbia pour les filles. Donc tous ces magazines-là étaient aussi vendus souvent dans les GLH. Et puis pour Gay Pied, beaucoup par correspondance.
D'ailleurs, Gay Pied avait un tirage important. Je ne sais pas si tu connais le tirage de l'époque.
Ah, je me demande si ce n'est pas dans les 40 000 exemplaires ou un truc comme ça par semaine. Semaine. Donc oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que Gay Pied au départ était mensuel. Et à partir de fin novembre 82, c'est passé un rythme hebdomadaire. Donc ils ont changé de format. Ils sont passés format magazine A4 avec les unes cette fois en couleur. Et là, c'est devenu hebdomadaire jusqu'à la fin, jusqu'à octobre 92.
Moi, je me souviens d'une une donc de Gay Pied importante, celle-là, historique, je dirais, c'est après l'élection de Mitterrand, où on voit écrit 7 ans de bonheur, mais avec un point d'interrogation quand même. Il me semble qu'il y a un point d'interrogation.
Ah oui. C'était la une de juin 81, qui était encore sur du papier journal, qui se pliait en deux, etc. Et c'était, elle était effectivement très, elle était bichromique, je dirais. Elle était jaune et noire. Voilà. Après, les points d'interrogation, je ne suis pas sûr.
Mais bon. Bien que fait par des Parisiens, c'était un magazine qui était quand même assez ouvert sur en dehors de Paris. Moi, j'ai toujours trouvé des articles et il y avait toujours un écho qui était fait à l'actualité. Tu parlais des GLH notamment, à ce qui se passait dans les grandes villes de province, par exemple, ou ailleurs. J'ai trouvé que ce n'était pas très si parisien que ça. Alors, il y avait toujours les comptes rendus des fêtes au palace, etc., certes, mais en dehors de ça, j'ai toujours trouvé que c'était vraiment... Il sortait du microcosme parisien pour vraiment s'intéresser à ce qui se passait ailleurs.
Alors, je pense que ça allait être moins que Tétu, même si Tétu se défend d'être parisien, mais effectivement, ça relayait de partout. Il y avait des correspondants en région, et si ma mémoire est bonne, il devait y avoir un correspondant à Lyon, parce que dès qu'il y avait des articles sur Lyon ou la région, c'est lui qui signait, et je crois que lui, c'était Claude Coquand. C-O-C-A-N-D. Donc il devait être à Lyon, je pense, basé à Lyon, parce qu'il signait vraiment tous les articles là-dessus. Il y en avait quand même effectivement régulièrement. Et il y avait, voilà, j'ai l'impression qu'il y avait quand même des correspondants un peu partout. Il y en avait un en Angleterre aussi. Il y avait aussi de l'actualité internationale au fur et à mesure. Et voilà, et on voit, c'est vrai, dans les signatures, des gens très focalisés sur une région ou une autre.
Et puis le journal Gay Pied, c'est un journal qui a été un des premiers à parler de ce qu'on appelait le cancer gay à l'époque.
On sortait des années d'oppression, entre guillemets, en tout cas étouffante. Il y avait eu l'arrivée de Mitterrand qui avait libéré la vie homo, etc. Et puis là arrive le sida. Au début, on parlait de cancer gay, puis ensuite sida avec des majuscules, puis sida avec des minuscules. Et là, tout de suite, là, je renvoie à Frédéric Martel, le rose et le noir, qui décrit ça très bien. Tout de suite, la communauté a refusé de voir. C'est-à-dire, tout de suite, la communauté a dit « Non, c'est encore un coup des forces réactionnaires pour nous empêcher de vivre, donc continuons à baiser. » À l'époque, même l'association des médecins gays, Claude Lejeune, le président, disait « Non, non, allez-y, baisez tant que vous voulez, c'est pas vrai, c'est des fantasmes, etc. » Et Gay Pied a été totalement dans cette mouvance-là. Il y a certains éditos de l'époque qui aujourd'hui font hurler. Maintenant, il faut le replacer dans l'époque. C'est pour ça, c'est pas du tout pour juger que c'est intéressant à voir la façon dont ça s'est passé. Au début, quand en 84, Daniel Defer a fondé Aide, il a contacté Franck Arnal au Gay Pied pour faire passer les messages de Aide, etc. Franck Arnal est allé à la première réunion, puis il n'est plus du tout venu, il n'a pas du tout supporté ce que faisait Aide. Au début, Aide s'est retrouvé tout seul et la communauté voulait absolument pas l'entendre, personne ne se mobilisait. C'est que à partir de 85-86, quand vraiment on pouvait plus faire l'autruche, que là, il y a eu la ligne et on a parlé de plus en plus du sida dans le Gay Pied, et avec Claude Lejeune aussi à la MG a totalement changé de discours. Et là, il y a eu après des avertissements. Enfin voilà, il y a eu toute une actualité autour du VIH qui était beaucoup plus constructive, je dirais, alarmiste. Même si le but c'était de pas trop alarmer non plus pour pas. Enfin voilà, c'était compliqué. Et par contre, après, dès que ça s'est mis en place, après là, ils y ont été jusqu'à la fin. Ils ont diffusé aussi chaque année l'enquête de Michael Pollack à l'époque, qui est devenue l'enquête Presgay, qui continue encore aujourd'hui, qui est dirigée par l'INVS, c'est-à-dire une enquête nationale de sondage autour des comportements de la communauté à des fins statistiques. Et voilà, donc ça, tout de suite, ça après s'est paru dans le guépier. Mais il y a eu quelques années au début de flottement, de flottement, qui se comprennent par le contexte de l'époque, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement choquants quand on le voit aujourd'hui, avec le recul qu'on sait ce que c'est devenu.
Après, il est difficile de juger après coup.
Ouais. Hein. Ouais. Le but n'est pas tout de porter un ostracisme, parce que personne ne peut dire comment il réagit à l'époque. Tout le monde était totalement démuni et personne ne savait. Et il y en a beaucoup qui lui ont reproché. Voilà.
Alors, pour revenir un petit peu à mon propos du départ, donc Guépier, en fait, toi, tu as décidé très intéressé par la lecture des Guépiers que tu pouvais disposer à la bibliothèque donc du CGL à Paris, tu as décidé d'en faire un blog. Parle-nous un peu de ce blog déjà. Depuis combien de temps tu l'as et sous quelle forme il se présente? Est-ce qu'on a des extraits d'articles ou est-ce que vas-y, dis-nous, explique-nous.
Alors déjà la genèse, comment c'est venu? C'est venu effectivement de mes activités de volontaire à l'équipe bibliothèque. En fait, je vais faire un peu de pub là, deux minutes pour le centre parisien, je suis désolé. On a une grosse base de données qui est consultable depuis le site du centre, www.centrelgbtparis.org, rubrique bibliothèque. Et là, en fait, on a tout notre fonds, que ce soit les livres, les périodiques, etc., qui sont référencés. Et j'avais déjà fait tout le référencement, ce qu'on appelle dépouillement de têtu, c'est-à-dire rentrer dans la base de données l'intégralité des articles, c'est-à-dire à chaque article, le nom de l'article, la thématique, un résumé, un petit résumé sur une ligne, l'auteur, la page, etc., de façon à ce que les étudiants ou les chercheurs ou les gens intéressés puissent chercher dans notre base de données tous les articles de presse selon des mots-clés, etc. Et une fois que j'ai terminé têtu, même si dès qu'il en sort un chaque mois, je continue le dépouillement, je suis passé à Guépier. J'ai pris le parti de remonter dans le temps, c'est-à-dire que j'ai commencé au dernier numéro pour remonter jusqu'au premier. Donc j'ai commencé par dépouiller l'année 92, donc depuis le dernier numéro, le 540, je ne sais plus combien. Donc là, le but, il était totalement opérationnel, c'est-à-dire de rentrer dans la base de données les articles. Et au fur et à mesure que je dépouillais, j'étais quand même fasciné à la fois de voir, à l'époque, donc 20 ans après, les différences, et puis en même temps, tout ce qu'il y avait déjà en place. En 92, il y a un article de 4 pages de la mère Boutin qui expliquait qu'elle serait très malheureuse si un de ses fils se révélait être pédé. Voilà. Et c'est des petits trucs comme ça. C'est en lisant que, à l'époque, les bars, les backrooms, etc., ne mettaient pas de préservatifs ou d'affiches parce que ils auraient pu être condamnés quasiment pour incitation à la débauche. Et donc, c'est tout ça qui m'a fasciné, qui m'a fait dire j'ai envie d'en garder une trace. Et donc, du coup, une fois que j'ai eu fini de dépouiller toute l'année 92, j'ai eu envie d'écrire un truc, un résumé. Alors, c'était pas du tout construit, le premier. Et je l'ai, en fait, publié sur la plateforme de YAG, parce que c'était ouvert, etc. Il n'y avait pas besoin de se faire coopter avant. Donc, je l'ai déposé comme ça. J'en profite aussi pour donner l'adresse du blog, tant qu'à faire. Donc, http://thd75010.yag.com. Et puis, en fait, dès que je l'ai posté, je sais pas plus si c'est Christophe Marté ou Judith Zieberfeld ou Xavier Hérault qui l'ont vu et l'ont mis en une. Et puis voilà, et puis il y a des gens qui ont commencé à répondre. Et ça m'a fait plaisir parce que bon, d'une part, je n'étais pas totalement à côté de la plaque, ça intéressait, ça devait être lisible. Et puis surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que ça évoquait des choses chez les gens. Alors, à la fois, ça en évoquait à ceux qui l'avaient vécu et puis à ceux qui, au contraire, n'avaient pas vécu. Et donc, du coup, au fur et à mesure, Alors, le premier, en fait, c'est une fois que j'ai eu tout dépouillé, j'ai essayé, je m'y suis replongé pour essayer de constituer un article, voilà. Et à partir de 91, puis 90, etc., là, au fur et à mesure que je dépouillais, j'ai tout un cahier où j'ai pris des notes. Voilà, dès qu'il y avait des articles qui m'intéressaient, j'ai pris des notes dans l'optique de la constitution de ce blog. J'ai scanné des articles, voilà. Et au fur et à mesure que j'ai dépouillé, j'ai fait des articles année par année. Voilà, donc il y a de 79 à 92, il y a toutes les années où, voilà, c'est un choix subjectif, c'est le mien, où j'ai de temps en temps mis des extraits d'interviews, ce genre de choses. Alors, c'est sous forme littérale, c'est un peu indigeste à lire parce que quand on le met sous Word, ça fait 10 pages pour chaque année. Voilà, donc il faut le lire, le laisser, le relire. Mais voilà, il y a toujours eu par contre, alors ça je remercie Yac parce qu'ils l'ont mis en avant à chaque fois. Et puis surtout, voilà, il y a eu des retours de lecteurs qui, moi, m'ont donné envie de continuer. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fini ces rétrospectives-là, en fait, je continue à publier des articles. Alors, maintenant, c'est un par mois, qui sont beaucoup plus courts et qui, là, sont axés sur un événement. Il y en a eu dans les numéros récents ou ceux qui vont venir. Il y en a eu un justement sur la tentative de Pasqua d'interdire le guépier. Les prochains numéros, c'est sur les débuts d'Acte Paris, sur les salons de l'homosocialité. Voilà, donc là, c'est beaucoup plus un thème, un événement. Et là, voilà. Déjà, là, ça reste dans un contexte associatif. Il faut voir que ce que je disais tout à l'heure aussi, on ne peut pas comme ça mettre tout en ligne. Il y a quand même des questions de droit. Donc les questions de droit, en fait, la marque Guépier, donc le fonds a été racheté par la société Gayvox, donc les droits leur appartiennent à eux. Voilà. Pour autant, le PDG de Gayvox, à la suite de mon blog, m'a contacté et donc du coup, je travaille avec eux et avec un éditeur pour essayer de faire revivre le guépier. On met au point un album souvenir des années guépier à base d'extraits d'articles, de facsimilés, une partie aussi du blog revue, histoire de remettre dans le contexte, histoire de redonner à voir guépier. Parce que ça, moi, c'est ce que j'ai vu à la fois dans les commentaires et puis avec les gens avec lesquels je discute maintenant, c'est que Guépier reste un journal mythique un peu pour la communauté. Il y a un très fort affect parce que ça rappelle plein de choses aux gens. Ça leur rappelle leur propre vie, leurs propres expériences. Et du coup, il y a véritablement une envie.
Bienvenue, c'est Joe.
Thank you.
Et bien voilà, tout le monde aura reconnu évidemment la voix enfantine de Vanessa Paradis il y a quelques années en arrière. C'est un tube très connu évidemment, Joe le Taxi, qui est de l'année 1987. Qui m'a fourni l'occasion aussi de faire la transition pour ce qui va arriver, puisque maintenant les chroniques de Thomas Dupuis, les années guépiers, donc s'intéressent à l'année 1987, qu'on pourrait intituler les années Pasqua, qui sera suivi de l'année 1988, sans coup férir, qu'on pourrait à celle-là appeler les années Mitterrand. Bon, voilà, c'était moi qui ai donné des sous-titres à ces chroniques, ça n'engage que moi, mais on verra que dans les deux cas, les deux personnalités politiques ont eu une place évidemment importante, 1988 étant notamment l'année de réélection de François Mitterrand à la présidence de la République, mais on va commencer par 1987, où on a eu maille à partir avec le dit Sieur Pasqua.
La France est dotée d'un gouvernement de cohabitation, avec Mitterrand, François Mitterrand qui reste à l'Élysée, et Jacques Chirac, donc de droite, qui prend le gouvernement et Matignon. Et on va voir en 87, alors c'est intéressant de faire le distinguo entre les deux, on va voir d'une part l'action au ministère de l'Intérieur de Charles Pasqua qui va être totalement anti-homo, voilà. Et en face de ça, on va avoir l'action au contraire de Michel Barzac qui, sans être pro-homo particulièrement, va vraiment faire avancer les questions politiques de lutte contre le sida.
Donc, ça a été l'année de tous les dangers, 87, avec Pasqua, pour la communauté gay.
Voilà, alors Pasqua, effectivement, va commencer en mars en essayant de faire interdire un certain nombre de presse. Alors, il y avait le Guépier surtout, et il y a eu aussi d'autres magazines qui ont été menacés, l'Écho des Savanes, Photo, etc. C'était vraiment un retour à l'ordre moral. Voilà, donc il a essayé de faire interdire le Guépier, c'est-à-dire pas le faire interdire directement, ça aurait pas été possible juridiquement, mais c'était de faire en sorte que Guépier n'ait plus le droit de faire de la publicité, d'être distribué dans tous les kiosques par les NMPP, ce qui aurait été au final la mort du journal. Donc le ministère de l'Intérieur va envoyer des lettres aux rédactions de quelques journaux, dont le Guépier, pour leur dire qu'ils ont un mois ou je sais pas trop quoi pour se mettre en règle. Et le Guépier, par contre, représente dans la communauté gay un journal très très important, et le Guépier aussi est devenu célèbre et a assis sa place, a vraiment consolidé sa place au sein des médias français. Et donc dès que le matin, c'était en mars, je ne sais plus quel matin, dès que la lettre arrive au Guépier, en fait, tout de suite la rédaction va se mobiliser, va alerter tous les relais qu'elle avait partout dans la presse, et au final, tout Paris ne parle que de ça la journée où arrive la lettre recommandée au Guépier. Même le journal, le JT de 20h de TF1 en parle. Là, tout de suite, certains membres du gouvernement, Claude Malhuret, qui était secrétaire d'État aux droits de l'homme, pardon, et François Léotard, qui était à la culture, se rendent compte que c'est une bourde énorme de vouloir faire interdire le journal. Donc, ils commencent à infléchir un peu le discours, mais au final, voilà, tout le monde se mobilise, si bien que au bout d'une petite semaine, en fait, Pasqua est obligé de faire marche arrière et de dire que bon, finalement, alors je sais pas quelle astuce juridique il a trouvé, mais que finalement, il leur fiche la paix. Donc l'affaire va durer une semaine, mais au final, aura fait vachement de pub au journal parce que le grand public en a beaucoup parlé. Voilà, donc ça aura été loupé. Dans le même ordre d'idée, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, Pasqua va organiser, ça va être juste le temps d'un week-end, une grande exposition Place Beauvau. Alors, je ne sais plus comment il appelait ça, mais en fait c'était un musée de l'horreur, on va dire, où il a exposé plein de revues, d'objets, etc. pour montrer un peu les déviances du monde contre lequel il se battait. Il va quand même revenir à la charge aussi en milieu d'année pour essayer de réglementer le Minitel. Pour ceux qui n'auraient pas connu, pour les plus jeunes auditeurs, c'était, on peut dire, l'ancêtre d'Internet uniquement en français, mais où il y avait beaucoup de sites de rencontres entre mecs. Et donc Pasqua, là, allié au secrétaire d'État au poste des communications, Gérard Longuet, va essayer aussi de mettre de l'ordre dans le Minitel. Pour l'instant, ça aboutira à un échec, enfin, ça ne marchera pas. Donc on a des mesures très répressives de la droite la plus rétrograde, on dira, qu'incarnait Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Face à ça, par contre, on a des mesures très progressistes avec Michel Barzac au ministère de la Santé. Il faut voir que du temps a passé, donc là, l'épidémie de sida est vraiment installée. On commence à avoir quelques moyens aussi à y voir plus clair. Donc, c'est Michel Barzac qui va lancer un grand plan sida. Jacques Chirac a décrété 87 années de lutte contre le sida. Et il y a tout un plan qui se met en place au ministère de la Santé. Alors d'abord, pour diffuser beaucoup plus largement, le premier traitement qui est apparu sur le marché l'année passée, c'est la ZT. Alors qui ne sera certes distribué que dans les hôpitaux, mais qui va être beaucoup plus diffusé. Il y a des mesures aussi qui vont continuer auprès de la sécurité sociale pour toujours mieux rembourser, etc. Il va y avoir des campagnes de publicité de prévention, deux grandes campagnes dans l'année. Et puis surtout, il va y avoir un grand plan sida qui va mener trois choses principalement. C'est l'autorisation, à l'époque ce n'était pas autorisé, de la publicité pour les préservatifs. Donc ça a été un grand événement. Moi personnellement, je me souviens de la. C'était un dimanche soir, la première fois qu'on a vu une pub pour Durex. Voilà, on voyait une deux chevaux avec visiblement un couple qui s'amusait à l'intérieur, sans savoir d'ailleurs si c'était un couple homo ou hétéro. Voilà, donc Barzac va autoriser la pub pour la capote. Barzac va aussi autoriser la vente libre de seringues dans les pharmacies. Ça, c'était pour lutter contre les infections les infections des toxicomanes. Et enfin, Barzac va créer les CDAG, centres de dépistage anonymes et gratuits, qui vont essaimer partout en France, de façon à ce que les populations aillent beaucoup plus facilement, gratuitement et surtout aussi anonymement, ce qui facilite le geste, se faire dépister afin de pouvoir être prise en charge le plus rapidement possible. Voilà, donc on va avoir vraiment beaucoup d'avancées à ce niveau-là, au point de vue sanitaire, on va dire, grâce à un gouvernement de droite. Alors, la droite la plus extrême, elle, continue à surfer sur la question du sida. J'avais parlé lors d'une précédente émission du docteur Bachelot au FN qui commençait à théoriser la question du sida. Ça va paraître vraiment auprès du grand public en mai 87, quand Jean-Marie Le Pen à nouveau va être invité à l'heure de vérité, qui est la grande émission politique de la deuxième chaîne publique, et là va parler ouvertement, et d'ailleurs ce sera repris dans les journaux, de sidaïques qui transmettent leur virus par la sueur, par qu'il faut enfermer dans des sidatoriums. Il va vraiment stigmatiser ces populations-là, et ça va avoir d'ailleurs beaucoup de retentissement même auprès du grand public. C'est des paroles qui passeront pas, clairement, que ce soit auprès de la communauté, bien sûr. Alors d'ailleurs, Jean-Marie Le Pen sera élu par la communauté personnalité homophobe de l'année, mais même le grand public va continuer à voir la véritable face de Le Pen au travers de ses déclarations sur la question du sida. Par contre, toujours au niveau du grand public, on a quand même un événement très important qui est en octobre, je crois, qui est la une du Nouvel Obs, donc je ne sais plus combien octobre, 87 ou novembre, je ne sais plus, qui met en une photo de l'écrivain Jean-Paul Aron, et avec en gros titre « Mon sida ». Donc Jean-Paul Aron va être une des premières personnalités françaises à dire oui, je suis atteint, et à raconter. Enfin, c'est une très grande interview qui a d'ailleurs après été sortie en livre dans le Nouvel Obs, où il dit clairement voilà, j'ai le sida, il en parle, il mourra je crois l'année suivante. Il va passer bien sûr à la télé, apostrophe notamment. On a parlé précédemment de Rock Hudson, qui a été la première véritable grande star de l'époque, internationalement connue, qui était un peu l'incarnation du sida. Jean-Paul Aron va être la première personne en France à oser dire avant sa mort « Je suis atteint du sida » et donc à personnifier la maladie même auprès du grand public. Et Jean-Paul Aron, qui était d'ailleurs une figure du milieu militant, il était avec Yves Navarre, un des grands intellectuels qui portait la candidature de Mitterrand.
Sur le plan associatif, qu'est-ce qu'on peut signaler pour l'année 1987 ?
On a une association qui va marquer quelques années, qui sera APARTS, mais qui est une association de lutte contre le sida, qui en fait était là pour qui achetait des appartements. Alors d'abord à Paris, je crois, puis il y en a eu à Créteil, il y en a eu un peu à Marseille, je crois. Donc qui étaient des appartements thérapeutiques en fait pour les malades expulsés de chez eux ou qui avaient besoin d'être encadrés. Et par contre, une association, qui c'était plus une fédération, c'est la fédération Agora dont personne ne parle, qui était en fait une alliance des grandes grandes entre guillemets associations gays de l'époque, David et Jonathan, Le Gage, etc. Donc ça a été un regroupement d'associations qui a essayé de travailler ensemble. Alors c'était un peu un précurseur de ce que deviendra plus tard le Centre Gay et Lesbien. La Fédération Agora va tenir 2 ou 3 ans, sans grande action, parce qu'en fait c'était un regroupement d'associations et c'était pas une association propre. Ça fait que chaque militant de chaque association était pris par ses propres priorités. Après l'effondrement du QAR, qui a été la grande fédération du début des années 80, fédération plus politique, la Fédération Agora a été un essai de, à la fois, de ce que deviendra le Centre Gay Lesbien et de ce que deviendra plus tard l'inter-LGBT. Mais là, on est beaucoup plus dans les années 90 puis 2000, de regroupement d'une fédération d'associations gays.
L'année 1987, c'est aussi une année assez événementielle finalement, par rapport à des personnalités qui souvent sont liées à la culture gay, à la culture lesbienne.
Alors effectivement, on a Dalida qui va se suicider, qui se suicide cette année-là. Alors dès les semaines qui suivent, d'ailleurs Orlando commence à sortir la première compilation post-mortem de Dalida. Ce sera que la première avant un grand nombre. On a aussi Barbara. Alors Barbara, icône gay là aussi 6 l'année, qui sort son titre Si d'amour à mort. Barbara, l'année précédente, j'ai oublié d'en parler dans les précédentes émissions, elle avait fait un grand spectacle, Lily Passion, avec Depardieu, donc elle se recycle un peu. Et Barbara, en 87, donc, sort l'album Si d'amour à mort, où elle commence en fait sa campagne de soutien aux malades et à la prévention. Barbara, après, jusqu'à la fin de sa vie, s'investira totalement dans la lutte contre le sida. Pendant un an, elle se mettra en retrait pour visiter des malades, pour visiter des prisons, pour porter vraiment des messages de prévention. Elle s'est investie là-dedans. Au niveau de la culture, vraiment, on pourra citer la sortie du film de James Ivory, Maurice, avec Hugh Grant. Et enfin, sur la culture au sens plus élargi, on pourra faire un clin d'œil à David Girard qui sort son premier disque. Un peu ridicule, mais bon, c'était le personnage, voilà. Et surtout, qui inaugure, courant 87, qui ferme le Haute Tension, qui était son précédent club, et qui ouvre le Megatown, à Barbès, à l'ancien cinéma Le Luxor, qui maintenant est redevenu le cinéma Le Luxor d'ailleurs. Donc c'était un immense club, c'était un truc énorme avec plein de lasers à l'époque, voilà, très, très disco, très, très fête quoi. Le soir de son inauguration, David Girard va jusqu'à mettre en place des services, des navettes gratuites de bus entre Châtelet et Barbès. Ça va être le grand événement de clubbing en France. Je crois que c'était d'ailleurs le plus grand club en Europe.
Pluriel gay. Nous nous retrouvons avec Thomas Dupuis, l'auteur des Années Guépiers, paru aux éditions des Ailes sur un tracteur, pour la chronique de l'année 1988. L'année 1988, donc, est marquée par des événements politiques.
Oui, en effet, on l'a vu précédemment, en 86, on avait eu un changement de majorité en France. Et en 88, ont lieu de nouvelles élections présidentielles. Alors, jusqu'au dernier moment, le président Mitterrand laisse planer le suspense sur se présentera-t-il, ne se représentera-t-il pas. Alors, les élections présidentielles sont totalement différentes, en tout cas pour la communauté, par rapport à 1981. Autant en 81, on avait senti un véritable engouement derrière le candidat Mitterrand, autant en 88, en tout cas, il y a moins de parti pris pour le candidat du PS, même s'il reste favori. Donc, on le sait, Mitterrand sera réélu, il dissoudra l'Assemblée nationale, histoire de remettre une majorité de gauche au gouvernement. Donc, la première moitié de l'année, on est toujours sur un gouvernement de droite, un gouvernement de Jacques Chirac. Et on, comme en 87, on revoit à la fois d'un côté Pasqua tenter de remettre de l'ordre moral dans cette France en perdition, et de l'autre, Barzac avancer lentement mais sûrement dans la lutte contre le sida. Alors, en 87, on avait vu Pasqua s'en prendre notamment au guépier. Un échec lamentable. Il va recommencer en 88. Là, il va essayer d'interdire deux revues de David Girard, qui étaient GI et Perso. On peut noter d'ailleurs que même si on va avoir un changement de majorité au printemps, en fait, à Charles Pasqua succède Pierre Jox au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Et en fait, Jox va continuer exactement la même politique, enfin, sensiblement la même politique, en tout cas, au regard vis-à-vis de la communauté homosexuelle. Et Jox, lui aussi, avant la fin de l'année, va menacer d'interdire le mensuel homosexuel Playguy. Finalement, Jack Lang interviendra et Playguy sera sauvé. À la fin de l'année, comme Pasqua et Longuet l'avaient essayé en 87, Jox va commencer à s'en prendre au serveur de téléphone rose. Et on verra qu'en 92, ce sera le Minitel rose qui sera menacé. Voilà, donc au final, le changement, c'est toujours pas pour maintenant et les politiques restent un peu les mêmes. Au ministère de la Santé, Barzac continue son action. Elle, on a dit, elle a lancé un grand plan sida en 87. En 88, les premiers centres de dépistage anonymes et gratuits se mettent véritablement en place après les décisions de 87. D'autres sont annoncés. L'INSERM, qui pilote la recherche en France, se consacre de plus en plus aux études sur le virus du sida. Et 88 voit aussi la création du CRIPS, Centre Régional d'Information et de Prévention sur le Sida, qui existe toujours, qui est un grand centre d'information et de documentation ouvert pour une part au public sur la question du Sida. Il faut noter que les gouvernements, du coup, après Barzac, donc les gouvernements de gauche, continueront des politiques de prévention contre le sida.
Donc le sida qui reste encore et toujours prédominant dans l'actualité, on peut dire pratiquement dans l'actualité LGBT, dans la communauté gay.
On a l'impression, effectivement, que le sida est devenu un mal chronique dans la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'étonnement, il y a une espèce d'abattement, je dirais. Les chiffres se succèdent, tous plus mauvais les uns que les autres. En 88, les chiffres de morts en France ont encore doublé par rapport à 87. On compte fin 88 3000 malades, sans compter ceux qui sont déjà décédés. Et on estime, mais ça sont des estimations, à 200 000 le nombre de séropositifs en France. Chaque semaine dans le guépier on apprend de nouveaux décès. Alors, dans les décès marquants de 88, on pourra citer le dessinateur Copy, on pourra citer Jean-Paul Aron dont j'ai parlé dans la chronique sur 87 parce qu'il avait lui-même annoncé être malade du sida, et on pourra citer aussi Guy Hockenheim, qui était un philosophe, un écrivain, un des membres au tout début du Phare. Alors le Phare, c'était la grande association des années 70. Donc Phare, c'était le Front homosexuel d'action révolutionnaire. On était en plein dans les années post-68. Donc Cohen Game, dès cette époque-là, avait assumé son homosexualité, il avait témoigné sur son homosexualité, ce qui était énorme dans les années 70 dans le Nouvel Ops. Il avait fait un film aussi qui s'appelait Race Depp, comme PD à l'envers. Voilà, donc Guy Cohen Game, qui a toujours été une figure marquante, intellectuelle, et contrairement à Michel Foucault, dont on a pu parler aussi par le passé, donc Cohen Game lui a toujours assumé son homosexualité, et Cohen Game donc décède lui aussi du sida en 1988. Alors 88, l'action continue, on l'a dit, au niveau gouvernemental, au niveau des associations, on assiste à une refonte de AIDE. Donc AIDE, je dis, est né en 84 après la mort de Michel Foucault. Donc c'est son compagnon Daniel Defer qui a fondé AIDE. Et AIDE, ensuite, il y a eu plusieurs autres associations indépendantes qui se sont fondées en région. Et en 88, donc AIDE se réorganise pour devenir une fédération qui va compter 23 comités régionaux dans toute la France, mais chapeautée donc par AIDE. Un des grands débat sur la question du sida en 88, c'est celui du dépistage. Avec la grande question qui va hanter la communauté encore un moment, la communauté, le grand public d'ailleurs aussi, c'est est-ce que le dépistage doit être obligatoire ? Il commence à y avoir des débats sur cette question-là. Et on apprend aussi en 88, il y a plusieurs affaires de dépistage de gens malgré eux. C'est-à-dire dans le cadre professionnel, il y a certaines entreprises. AEG en Allemagne, il y a Philips aux Pays-Bas qui sont obligés de reconnaître qu'elles ont dépisté à leur insu des salariés. En France, on a la mairie de Paris, donc par Jacques Chirac, qui dément un moment et puis qui est contrainte de reconnaître qu'effectivement elle a procédé au dépistage de plusieurs de ses agents à leur insu. Voilà, donc on a beaucoup de questions là-dessus. La vie civile se cherche sur cette question-là. On voit aussi des cas d'employeurs qui demandent des tests de sérologie dans le cadre des procédures de recrutement, etc. La loi a besoin de passer par là, quoi, pour stabiliser les choses. Mais voilà, les débats sont vraiment ouverts. On a quelqu'un comme le professeur Schwarzenberg, par exemple, qui appelle au dépistage obligatoire des populations. Alors parfois c'est de toute la population dans son ensemble, parfois c'est des populations à risque, dont les homosexuels bien sûr au premier titre. Voilà, sur la question du sida, on pourra noter aussi en 88 que c'est la première fois qu'est organisée la journée internationale de lutte contre le sida, qui perdure toujours. Donc c'est le 1er décembre partout sur la planète. Donc la première fois c'est en 88. Donc c'est l'occasion de débat d'une grande marche. Et donc du coup en 88, avec cette première manifestation-là, les médias se mobilisent aussi. Il y a une première soirée qui est organisée par TF1, animée par Jean-Pierre Foucault et Martine-Alain Regnault, dès 20h. 20h30, qui va s'appeler Vivre avec le sida, basé sur des témoignages, etc. Donc, je le disais tout à l'heure, le sida est devenu vraiment un mal chronique, intégré par la population, avec lequel la communauté apprend à se débattre au quotidien. Mais on a l'impression vraiment que ça stagne. C'est vraiment les années noires. On a passé le cap de l'étonnement, on subit. On subit, il y a quelques traitements, donc on en a déjà parlé, la ZT, voilà, mais qui sont durs, qui sont très durs, très contraignants, très lourds, et puis les gens continuent à mourir par brassée.
Cette année-là aussi, Fréquence Gay, la radio Fréquence Gay, devient Future Génération.
Oui, alors Fréquence Gay, on en a beaucoup parlé dans des chroniques il y a un moment maintenant, où on a vu que sa naissance a été douloureuse. Il a fallu que les gens manifestent dans les rues en 83, je crois, pour qu'elle puisse véritablement avoir une fréquence. On a vu qu'il y a eu plusieurs combats internes entre la direction, les journalistes, etc. Plusieurs fois, elle a très souvent changé de direction aussi. Plusieurs fois, les programmes ont dû s'arrêter pendant plusieurs semaines, histoire de remettre les choses à plat. En 88, Fréquence Gay change de nom. Elle devient Future Génération. Alors, elle assume encore, même si le titre ne le dit pas, elle assume encore quand même son orientation à destination de la communauté homosexuelle, mais on le voit par le changement de nom, elle va commencer à s'en éloigner pour devenir de plus en plus une radio musicale et de moins en moins une radio militante.
Eh bien, merci Thomas, nous nous retrouverons pour une prochaine chronique. À très bientôt.
Et je t'en prie, à bientôt.
Pluriel Gay. Voilà, donc l'émission touche à son terme. Nous retrouverons les années guépiers plus tard pour la suite des aventures, ce célèbre mensuel puis hebdomadaire. Thomas faisait allusion à un livre en préparation qui existe, qui est paru depuis, Des ailes sur un tracteur, ça s'appelle Les années guépiers. Et puis on va terminer l'émission donc avec une artiste qui a marqué l'époque, on va dire les années 80, évidemment l'incontournable Mylène Farmer, qu'on entendait partout. Alors je la passe rarement, Mylène Farmer, peut-être parce que je trouve que ça fait trop cliché. En tout cas, on va quand même l'écouter ce soir, on va lui faire une petite place dans l'émission, petite d'ailleurs, très petite, parce que l'émission touchant à sa fin n'aura peut-être pas la fin de la chanson, mais on aura quand même le début. Allez, Mylène Farmer, à très bientôt, à la semaine prochaine surtout.
L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.